18-19, le magazine.
Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Ce soir, un hommage à Michel Serres, un des rares philosophes contemporains à proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. Comme titre, nous avons choisi Michel Serres, passeur pour le XXIe siècle. Né en 1930 à Agen, dans le Sud-Est, il a gardé cet accent si typique que nous aurons tout à l'heure l'occasion d'écouter. Un parcours personnel qui le conduit de l'école navale à l'école normale supérieure rue d'Ulm à Paris, aux sciences puis aux sciences humaines, à enseigner à la Sorbonne, aux États-Unis et à finir à l'Académie française. Son œuvre, plus de 70 ouvrages, dont parmi les derniers, l'un qui a été publié à plus de 250 000 exemplaires, Petite Poussette. Initialement, nous avions prévu d'enregistrer Michel Serres à Paris. Nous lui avions écrit à l'Académie française, où il a été élu en 1990, au fauteuil 18, occupé autrefois par Edgar Faure. Sa réponse est revenue d'une façon remarquable. « Cher monsieur, merci pour votre message et votre invitation. Malheureusement, mon grand âge et de très gros ennuis de santé m'obligent désormais à restreindre énormément mes activités. » Puis nous avons eu une série d'échanges et nous sommes convenus de cette émission pour laquelle nous allons avoir trois témoins. L'un que nous allons entendre dans cette première partie tout à l'heure, le témoignage de François Lupu, médecin, sinologue, ethnologue, qui a été enregistré avant l'émission. Et en studio, nous avons deux femmes, Agnès et Ève, toutes deux philosophes, et en particulier, Ève a été élève de Michel Serres. Alors, nous allons commencer par vous, Ève. Qu'est-ce que ce contact avec Michel Serres vous a appris et qu'est-ce que vous diriez dans un premier temps, puisque nous avons toute l'émission pour en parler, qu'est-ce qui vous a frappé surtout ?
Oui, bonsoir, merci. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette émission pour évoquer Michel Serres, qui a en effet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer toute jeune étudiante quand je commençais mes études de philosophie, qui ont été assez longues, parce qu'il est venu donner des cours à Nice, à la faculté des lettres de Nice, plusieurs années de suite, dans les années 70. Donc c'est à cette occasion que j'ai pu le rencontrer, écouter ses cours qui, évidemment, nous ont surpris, nous, les étudiants niçois. Nous n'avions pas l'habitude de cette façon d'enseigner et il nous a laissé à tous un souvenir incroyable.
D'accord, ça c'est votre impression très oui, forte sur laquelle on reviendra.
Tout à fait.
Votre rapport avec...
Alors, ça n'est pas du tout un rapport aussi personnel. Et j'aime beaucoup entendre Ève évoquer les souvenirs qu'elle a de Michel Serres. Non, moi, c'est tout simplement le premier livre que j'ai lu. Il s'agissait d'esthétique sur Carpaccio. Et c'était lors d'un voyage d'études. J'étais en Hippocagne, à Venise. Voilà. Et ce texte m'était apparu assez saisissant. Je crois qu'à l'époque, je n'avais peut-être pas compris l'essentiel de ce qu'il pouvait dire, mais voilà, je me souviens de son analyse du Saint-Georges combattant le dragon et du tableau représentant Saint-Augustin parmi ses écrits. Voilà.
Voilà. D'accord. Alors voilà vos deux premières impressions. Nous allons maintenant entendre François Lupu et nous allons entendre son témoignage. Il va vous dire, vous allez l'écouter, comment il réagit face à cet homme, Michel Serres. Intervenir dans cette émission sur Michel Serres. Alors, dites-moi, François, pour vous, que représente Michel Serres pour le présent et pour le futur ?
Oula, la question est lourde. Intéressante, mais lourde. Bon, je peux déjà dire ce que Michel Serres a représenté pour moi dans ma vie, tout simplement. Moi, je ne suis pas philosophe, bien sûr, je n'ai fait que de la philosophie par accro. Mais il y a eu un coup de tonnerre dans ma vie grâce à Michel Serres. C'est le moment où, je crois que c'était en 1984, a commencé la publication dont il est le fondateur, qu'il a dirigé, qu'il dirige encore, je crois, qui s'appelle le Corpus des œuvres de philosophie de langue française. Ça a été un véritable coup de tonnerre, parce que pour moi, comme pour beaucoup de jeunes à mon époque, il n'y avait pas de philosophie française. En dehors de Descartes, de Condillac éventuellement, d'Helvétius pour certains, ou de Victor Cousin, il n'y avait pas de philosophie française. Et là, je découvrais progressivement, au fur et à mesure des volumes, il y en a quand même presque 150 hein, des volumes, quelque chose qui pour moi était phénoménal. Je me souviens très bien que j'attendais les parutions de ces volumes à couverture jaune clair avec la même impatience que la parution du journal de Mickey quand j'étais gosse. Bon, sauf évidemment que le rythme était un peu plus lent. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit un rythme hebdomadaire. Donc c'est par là que j'ai rencontré en quelque sorte Michel Serres, qui pour moi m'a ouvert un champ de réflexion et d'expérience que je n'avais même pas imaginé. Et puis ensuite est venue la publication des 5 volumes regroupés sous le nom d'Hermès, Hermès 1, 2, 3, etc. Et ça a été aussi un choc. Il faut se replacer à l'époque dans cet ouvrage et Michel Serres essaye de construire à la fois une épistémologie, une herméneutique de la science et surtout de ses effets sur le monde, qu'il soit contemporain ou pas. Et il pose le problème du messager, du philosophe comme messager. Et surtout, je m'en suis pas aperçu tout de suite, mais maintenant je m'en rends compte, il est tout simplement le précurseur de ce que nous avons aujourd'hui, les comités d'éthique. Et il pose le problème moral, moral au sens philosophique du terme bien sûr, des progrès de la science et de ses effets. Et ça pour moi ça a été, moi qui suis un scientifique d'origine, pas un philosophe, pas un littéraire, l'idée qu'on pouvait prendre du recul du point de vue moral sur la foi dans le progrès en réalité, a été quelque chose de très 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 important. Hein. D'autant plus que Michel Serres n'est pas un déterministe. Hein. C'est quelqu'un qui a appuyé la plus grande partie de son œuvre sur le principe d'incertitude, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors là, ça rejoignait, mais ce que je pouvais penser en tant que scientifique. Ça, c'était la première partie de l'influence ou du compagnonnage que j'ai eu avec Michel Serres, que je n'ai jamais rencontré, jamais vu. Hein. Mais il y a des compagnonnages comme ça, par les livres, par les articles. Quelqu'un qui parle à tout le monde, alors, et en fait, on croit que c'est à vous seul qu'il parle. C'est tout à fait étonnant. C'est très rare aussi. Hein. Et puis après, il y a eu alors toutes ces émissions radio, toutes ces chroniques hebdomadaires, souvent, et j'ai découvert un homme, comment je dirais, un homme rugueux, un homme qui avait un accent un peu comme Marcel Conch, un accent du terroir, et du coup, comment dire, il a cessé d'être un philosophe pour moi, pour devenir tout simplement je vais employer le mot en tant que sinologue, pour devenir une sorte de sage. Bon, en plus, il prenait de l'âge, donc de la distance, de l'expérience, de la bouteille, comme on dit, et il est devenu une sorte de sage terrien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander, mais en fond, qui sait le faire. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'on savait sur lui. Et je dois dire que un philosophe de son envergure qui a fait l'école navale et servi à la mer pendant 2 ans, c'est quand même pas courant. Et ça m'a fait comprendre que si son cerveau respirait l'esprit du grand large, apparemment son corps aussi. Bon, puis après, il a fait, bien sûr, normal sup, agrégation, enfin, le parcours classique, sans avoir jamais été, jusqu'à ces temps récents, mis à sa juste place en France. Il est très connu aux États-Unis, ou bon, il est connu dans le monde entier, mais c'est vrai qu'en France, il y a une sorte de recul vis-à-vis de lui, et je trouve ça profondément injuste. Et je crois que ça vient du fait que Michel Serres est un optimiste. Alors, attention, pas un optimiste béat, un optimiste dans la lignée de Socrate, de Platon, d'Aristote. C'est-à-dire quelqu'un qui a été une pensée résiliente. Quelqu'un qui vous dit tranquillement, il peut arriver des choses terribles, des chocs, des événements, des choses positives aussi, mais avec tout ça, il faut faire de la vie. C'est ça, au fond. Michel Serres, c'est, et on le voit bien avec ce bouquin qui a eu tellement de succès, Petite Poussette, on voit bien que il est partisan d'un néo-développement, en quelque sorte, de l'être humain, et je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai qu'en France, ce genre d'optimisme, non béat, encore une fois, mais raisonné, raisonnable, qui montre que tout événement dans la vie peut être non pas positif, mais porteur d'un néo-développement, c'est quelque chose qui n'est pas très bien accepté. On préfère la critique, on préfère, je dirais presque le pessimisme, tout va mal, quoi. Et c'est pas le cas de Michel Serres. Alors, évidemment, pendant que je vous parle, je suis en train de réfléchir, il y a des moments où, notamment dans ses chroniques, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai, j'aime pas beaucoup son recours systématique et l'étymologie, mais il y a cette voix. Il y a cette voix qui est une voix presque une berceuse intellectuelle. Oui, moi j'ai pas connu mes grands-parents qui étaient morts quand je suis né, et je dirais que Michel Serres, il est un petit peu la figure du grand-père que j'aurais voulu avoir en réalité, hein. Et donc voilà, sans le connaître, sans savoir qui il est, sans l'avoir jamais eu, j'ai l'impression que je l'ai côtoyé, que j'ai essayé de marcher un peu à mon petit niveau dans ses traces. Alors maintenant, savoir si il est un passeur entre le passé et l'avenir, entre le 20e et le 21e siècle. Ben, sincèrement, moi, je crois que tout être humain, je crois profondément que tout être humain, quel qu'il soit, est un passeur. Et je pense même que c'est sa définition. L'être humain parle, il a un langage, il communique, et en tant que tel, ben, il est effectivement un passeur. Alors Michel Serres est un passeur protéiforme, mais il a un peu tout abordé, mais tout être humain est un passeur, je dirais limite, sinon on ne serait plus là, hein, et pas un passeur génétique, mais un passeur d'expérience, de tradition, d'intelligence, de manière de voir le monde, et quelle que soit la culture, c'est quand même la définition de l'être humain. Quant à parler de l'avenir et du présent, du passé, bon, je me trompe peut-être, mais pour moi, 20e, 19e, 21e siècle, ça n'a rigoureusement aucun sens. C'est une comptabilité, ça fait un peu comptable, et alors que pour moi, le temps est un flux de vie continu. Savoir si le XXe siècle a commencé en 1906, en 1914 ou même plus tard, je trouve que c'est des questions là, qui ne sont pas à se poser. On est dans le temps, on est dans la vie, de la naissance à la mort, et puis les générations se succèdent. Et en ce sens, effectivement, si on oublie ou si on ne compte pas les siècles numérotés, alors effectivement, je pense que Michel Serres, d'abord c'est un être profondément humain, donc c'est un passeur, et avec son immense culture et son intelligence, disons que c'est un passeur de premier ordre. Voilà ce que je pourrais dire sur Michel Serres, qui au fond est un homme que j'aime. Voilà, il y a des gens que je respecte, des gens que j'admire, mais là, il y a... oui, c'est un homme que j'aime.
Merci beaucoup François de ce témoignage à la fois spontané, profond et que nous allons reprendre dans la suite de l'émission. Merci beaucoup François.
Mais bien, à bientôt.
Au revoir. Au revoir François. Voilà, alors Ève, une réaction à ce témoignage ?
Oui, le témoignage est très dense parce qu'il dit vraiment beaucoup de choses. Ben, j'aime bien sa conclusion, effectivement. Comment ne pas aimer Michel Serres ? Ce personnage qui quand même sort des sentiers battus de l'idée que l'on peut se faire du philosophe à la fois maître à penser et maître de sagesse, il est en marge de tout cela parce que c'est un voyageur en fait de la pensée. On pourrait presque dire en imitant un peu Bachelard qui parlait de cogito pétrisseur. C'est vrai qu'il y a un peu de cela chez Michel Serres parce qu'il parle très souvent des cinq sens et de tous les sens de l'être humain, les mains, l'ouïe, le toucher, enfin tout cela, il le met dans sa philosophie, mais en même temps c'est un cogito voyageur, parce que avec lui on est tout le temps en mouvement, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas rester assis, il faut bouger et avancer.
Merci Ève. Alors nous allons écouter la voix de Michel Serres. Elle est extraite d'une émission radio à voix nue en 2002, donc il est encore plus jeune que maintenant. Voilà, Michel Serres débute la série d'émissions. Nous allons entendre sa voix et puis nous allons finir cette première partie par une musique et je vous dirai pourquoi nous l'avons choisie.
Vous concevez que dès lors qu'on a l'impression qu'à un certain moment... La culture fondée sur l'agriculture est en train de s'effacer, car c'est le plus grand événement en effet du XXe siècle que cette fin de la culture agricole. Nous aurons toujours des agriculteurs pour nous nourrir, mais enfin, nous sommes passés de 70% d'agriculteurs à 2,3%, vous voyez, c'est-à-dire c'est devenu une activité résiduelle, c'est plus le modèle de l'humanité. D'ailleurs, les hommes politiques au début du siècle avaient une expérience directe de l'agriculture et ne l'ont plus. Très bien. Deuxièmement, cette idée de la mort globale qui nous touche, c'était des événements parfaitement nouveaux. Mais nouveaux de façon énorme. Pas nouveaux comme la révolution industrielle, mais nouveaux par rapport à notre passé. Parce que, au fond, l'agriculture commence avant le début de l'histoire. Et la mort globale...
Voilà, il s'agissait d'écouter la voix de Michel Serres, très typique. Et nous allons terminer cette première partie par une musique, la Moldo de Smetana. Et pourquoi ? Parce que la Garonne, et vous me rappeliez tout à l'heure, Ève, que lui disait il fallait dire Garonne, c'est bien ça. Il y est né, il y a habité, et son père travaillait sur la Garonne. Et en 1930, lors d'une inondation, la mère de Michel Serres est enceinte, et c'est son père qui l'a sauvé des eaux avec son bateau. Alors, la Moldo de Smetana prend une coloration tout à fait particulière pour finir cette émission. Nous allons la reprendre dans la deuxième partie en prolongeant notre échange et notre discussion. Michel Serres, passeur pour le XXIe siècle. Continuons notre chemin, et si Michel Serres a été connu par un certain nombre de personnes à partir de la télévision, de la radio, je crois que c'est un des livres récents qui a permis de le faire connaître, puisqu'il a été publié à plus de 250 000 exemplaires, c'est Petite Poussette. Et d'ailleurs, des gens parlent parfois, pour la première fois de ce livre, en disant « Ah, Michel Serres, quel auteur !» comme s'il ne l'avait pas connu avant, bien qu'il était déjà largement connu. Alors, nous allons écouter un bref passage de ce livre de Petite Poussette. Écoutez-le, je crois que ça situe bien la pensée de Michel Serres.
Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. Face à ces mutations, sans doute convient-il d'inventer d'inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets qui formatent encore nos conduites, nos médias, nos projets noyés dans la société du spectacle. Je vois nos institutions luire d'un éclat semblable à celui des constellations dont les astronomes nous apprennent qu'elles sont mortes depuis longtemps déjà. Pourquoi ces nouveautés ne sont-elles point advenues ? Je crains d'en accuser les philosophes, dont je suis, gens qui ont pour vocation d'anticiper le savoir et les pratiques à venir et qui ont, ce me semble, failli à leur tâche. Engagés dans la politique au jour le jour, ils n'entendirent pas venir le contemporain. Si j'avais eu, en général, à croquer le portrait des adultes dont je suis, ce profil eût été moins flatteur. Je voudrais avoir 18 ans, l'âge de Petite Poussette et de Petit Poussé, puisque tout est à refaire, puisque tout est à inventer. Je souhaite que la vie me laisse assez de temps pour y travailler encore, en compagnie de ces petits auxquels j'ai voué ma vie, parce que je les ai toujours respectueusement aimés.
Voilà, je crois qu'il fallait lire ce passage de Michel Serres, qui se voit vivre encore longtemps. Il a tant à faire, et en particulier l'attention qu'il a à l'égard des enfants, parce que Petite Poussette, c'est un livre qui peut être lu par les adolescents, sans problème en particulier. Alors, nous allons retrouver la voix de Michel Serres, parce que cette voix, après, Ève, je vous poserai la question, elle vous a encore une fois très beaucoup marqué. C'est dans son livre Biogé, qui en fait est à deux éditions, aux éditions du Pommier, mais ça a été édité aussi par une maison d'édition de presse, que nous donnons les références dans la note de synthèse. Et là, ce livre, eh bien, c'est Michel Serres lui-même qui le lit. C'est un livre absolument surprenant. Moi, je dirais que il parle de la Terre, et il nous propose un décryptage de la rumeur de la Terre. Et écoutez Michel Serres quelques instants parler de ce livre lui-même.
Déluge, en refrain. Depuis des milliards d'années, plantes et arbres, glycines, pommiers, chênes et tilleuls, accumulent sans cesse dans l'air un énorme réservoir d'oxygène, trésor que brûlent petit à petit les respirateurs. De la même manière, mais depuis des millions d'années seulement, les enfants, leur mère, leur jeu, les amoureux, leurs belles, les vieillards, leurs souvenirs, les naïfs, les simples, les pauvres, les promeneurs, ceux et celles qui les accompagnent, les sauteurs en hauteur à la perche ou au haie, les inventeurs avec les timides et les intuitifs, les artistes, même les comiques, plus celles et ceux que je n'ai jamais vus, parce qu'ils se cachent mutiques pour rire, accumulent des volumes astronomiques de joie, hélas inemployés, à cause de contemporains rares qui a donné avec frénésie à des drogues sociales diverses. Pour cette raison, et en faisant le plus de bruit possible, les domine. Pendant cette ère interminable, aussi délaissée que la matière noire, et comme elle puissamment majoritaire, ce stock énorme en dépôt dans une poche gonfla. Jusqu'au matin, où par un silence soudain, dont la grandeur occupa toute l'étendue de l'espace, tout craqua. Un big bang muet. La peau de la poche venait de lâcher. Alors, dense, intense, explosive, la joie arriva de gauche, de droite, en haute lame, au ras du sol, en cataracte et marée galopante, comme un tsunami. Liquide, noya les plages comme le ressac, occupa le creux des mers. Descendit des nuages en torrents et en nappes, neige, grêle, pluie. Jaillit eau, geyser, fontaine. Feu volcan sculpta la forme ovale du globe, changea ses climats locaux. Air l'enveloppa d'une écharpe volante, souffla en brise jolie. Lueur brilla comme étoiles et soleils, chatoya des couleurs de l'arc-en-ciel et des constellations. Cristalline adamantine s'installa en socle des roches. Créa. En crevant sa poche millionnaire, la joie inonda les vivants. Transperça la peau des bêtes, l'écorce des arbres, les écailles des poissons, les feuilles des artichauts, la fourrure des hermines et des martres, la coque des noix, même les épines dans le dos des hérissons. S'immissa liquide dans les artères, les veines, les conduits de sève, les vessies. Solide, renforça les os, les coquilles et les carapaces. Étira et durcit les muscles. Aérienne, gonfla les bronchioles et les vessies natatoires. Feu, dressa les verges, incendia les vulves, fit battre les cœurs. Douce, exalta les intuitions et fit sonner les langues, les fanfares et les carillons. Joie, matière dont est faite la biogée.
Voilà. Alors Ève, face à cette voix.
Ben oui, on est tout à fait charmé, on est pris par le rythme de cette voix qui nous transporte en quelque sorte, parce qu'il avait des talents de conteur, même dans ses cours les plus sérieux, par exemple sur la matière qui était à l'agrégation de philosophie le sujet de cette année-là. Eh bien, on le suivait passionnément parce qu'il savait en parler avec cette voix extraordinaire. C'était un conteur. Et si je peux lire, par exemple, le conte court qu'il a écrit dans son livre qui s'appelle Genèse, publié en 1983, je vérifie quand même la date pour pas me tromper. Oui, 82, pardon, 1982. Conte court. Me promenant cet été-là, sous un ciel éclatant, à la voile, et dérivant avec paresse sous le soleil et dans le vent, je me trouvais un beau matin dans les parages morts et verts de la mer des Sargasses, en un lieu mystérieux où la lumière de l'aurore faisait miroiter follement des millions de petits éclats de toutes formes et couleurs. Laissant porter, je vis avec stupeur un champ d'à peu près 100 hectares entièrement peuplé de bouteilles dansantes. Il y en avait un nombre incalculable. Chacune contenait son message, sans doute. Chacune avait son poids et sa petite ondulation, lestée de coquillages et de rocailles. Chacune portait son espoir et son désespoir. Les vents noués les avaient toutes poussées là, de toute distance, à partir de 1000 azimuts. Leur rencontre régulière, hasardeuse, rendait un carillon aigu et cacophonique. Ce bruit montait au ciel, allait à l'horizon, il emplissait l'espace d'ivresse. La nuit suivante, une large sargasse me mit en péril de naufrage et j'étais sur le point de couler. Je fis vite de quelques bouteilles un radeau, elles me servirent de flotteur et d'outre. Je rentrai ainsi à Bordeaux. Voilà, dans ce texte qui m'a beaucoup marqué, je ne l'ai jamais oublié, eh bien, on a un peu, presque un résumé de toute la façon dont Michel Serres fait de la philosophie. Et nous donne envie d'en faire, en tout cas.
En particulier par la voix.
Par la voix.
Par la musicalité.
Par la musicalité, parce que pour lui, l'ouïe, l'oreille, il faut être attentif non seulement à ce qu'on voit par l'œil, mais sans oublier tout ce que nous apporte l'oreille, avec les sons, les musiques, les rythmes. C'est très important, on le retrouve partout.
Il a beaucoup travaillé les sens.
Les cinq. Là, moi, j'en ai cité que deux, mais il y a les autres, effectivement. Les cinq sens, oui.
Ça, c'est extraordinaire. Alors, Agnès, une autre lecture, il y a un autre regard sur Michel Serres.
Alors moi, plus... Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette question de la voix, hein, du grain de la voix. Votre interlocuteur tout à l'heure citait Marcel Conche. Ève et moi, là, nous en avons un petit peu parlé avant l'émission. On pensait aussi à Bachelard, bien sûr. Je crois qu'il y a cet ancrage dans un terroir, dans une terre, dont la voix témoigne, dont le grain de la voix témoigne. Et en même temps, je me suis un petit peu intéressée à cette question là dernièrement, mais chez Michel Serres, il y a aussi une intelligence, c'est-à-dire de cette question de l'appartenance et de cette question identitaire. Dans Récit d'humanisme, qui est un ouvrage assez peu connu, assez peu lu de lui, je pense, il s'interroge justement sur ce qu'il appelle l'ivresse d'appartenance. C'est-à-dire trouver, il c'est un helléniste évidemment tout à fait distingué, il retrouve son savoir antique et il parle d'une libido d'appartenir chez les Grecs, dont il se méfie tout de même, hein, puisque elle était terriblement exclusive de la figure de l'étranger, excluante. Et donc il y a cette juste mesure, me semble-t-il, chez Michel Serres, entre ce territoire, cet ancrage territorial, et puis ce que tu évoquais tout à l'heure, Ève. C'est un voyageur, c'est un nomade, hein, c'est un homo viator.
Hein. Il fait des récits.
Voilà. Et du coup, voilà, absolument, la dimension du récit est fondamentale.
Absolument, oui, oui. Et il fait même allusion non seulement au récit que l'on peut rapporter d'un voyage, mais également au grand récit qui nous ramène alors, eh bien, à l'aube de notre univers, à l'aube de notre univers, un grand récit qui a commencé et dans lequel tous les petits récits, comme les petites bouteilles de tout à l'heure, s'accrochent, convergent, etc., tout en se heurtant. C'est pas du bisounours, hein, il ne fait pas, il tient compte aussi des conflits, aussi, voilà. Des conflits, des ruptures, ça fait partie de la vie.
Il a le sens, mais tu as complètement raison, il a le sens du récit cosmogonique, ça, voilà. C'est vrai.
Alors parlons aussi de Petite Poussette, qui est un livre que les gens ont lu ou pas lu. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'en parler? Parce que là, il aborde la question du numérique et la question de l'avenir.
Oui, ben, beaucoup de personnes ont eu peur à un moment que le numérique détrône la lecture, l'écriture. Et donc, lui, il va essayer de faire comprendre que l'on est dans une mutation. De même quand, lorsque on est passé à l'écriture, eh bien, des philosophes ont eu très peur. À commencer par Platon, qui disait que l'écriture allait éradiquer la mémoire, puisqu'on n'aurait plus besoin de tout apprendre par cœur, puisqu'on aurait tout ce qu'il faut dans les livres. Et quand il y a eu l'imprimerie aussi, il y en a qui se sont inquiétés de ce qu'allait devenir la pensée humaine. Or, on a bien vu que ça n'a pas arrêté les hommes de penser, loin de là. Même, ça les a plutôt excités à en faire plus et toujours plus. Donc, Michel Serres essaye d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies, qu'elles ont un apport, elles seront d'un apport considérable pour l'avancement de la pensée. Et je pense que c'est le sens de Petite Poussette, de ces enfants qui, maintenant, avec une vitesse qui nous laisse pendoir quand on n'est pas de cette génération, eh bien, que ces enfants vont s'en servir et qu'il n'y a pas à en faire un drame, à dramatiser à outrance. Alors, ça n'empêche pas les dangers qu'il y a. Et là, c'est justement, hein, le rôle des philosophes, c'est ça. À la fois de montrer ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif dans une invention humaine.
Alors, Petite Poussette, qui a été prolongée par Le Gaucher Boiteux, Puissance de la pensée, comme sous-titre, qui là nous apprend encore plus que Petite Poussette, qui nous aide à entrer dans ce nouveau monde.
Oui.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il ironise d'ailleurs dans Luminescence, si mon souvenir est bon, sur ce qu'il appelle les lamentations prophétiques, hein, selon lesquelles nous allons perdre notre âme dans les laboratoires de biochimie. Donc c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'humour et qu'il a cet optimisme chevillé au corps qui relève d'une véritable audace de la pensée. Je pense qu'il y a ça très profondément chez lui, effectivement.
Oui.
Et il a des phrases absolument incroyables. Tout à l'heure, on parlait des sens. Et il dit à un moment donné, rien ne donne plus de sens que de changer de sens. C'est absolument incroyable. Oui. Ou encore, apprendre lance l'errance. Oui. C'est pas forcément quelque chose auquel les pédagogues sont habitués.
Et non, parce que évidemment, quand on erre, il faut pas se perdre non plus. Il faut pas arriver jusqu'à se perdre et s'autodétruire. Mais je voudrais revenir aussi sur la question de l'éthique. Et du respect. Il y a eu le mot respectueux, de respecter les enfants, la jeunesse, la pensée. Or, moi, ce qui m'avait frappé chez Michel Serres, dans sa personne, c'est justement cet aspect de cette façon de respecter l'autre, d'être à son écoute, d'ouvrir grand ses oreilles, de regarder l'autre et de le respecter en même temps avec une immense pudeur. Une immense pudeur. C'était pas du tout une personne qui déversait son ego et qui se mettait en avant. Quand il avait quelqu'un en face de lui, il avait envie de savoir à qui il avait affaire et de mieux connaître la personne. Et ça m'avait sidérée parce que ce n'était pas le comportement habituel qu'on trouvait chez les professeurs. Maintenant, on n'était pas nombreux, on avait pu l'approcher quand il était venu faire ses cours. Mais j'ai eu la grande chance de le revoir ensuite à Paris, parce que j'ai été faire quelques années d'études à la Sorbonne, de le retrouver et de suivre à nouveau ses cours. Et ça a été vraiment toujours des moments extraordinaires.
Tout à fait. Alors, je crois qu'il nous faut parler enfin de l'un de ses derniers livres, Solitude, qui est peu connu et bien dommage parce qu'il l'écrit avec son fils.
Ah oui.
Alors, Solitude, c'est un livre qui est écrit entre le père Michel et le fils Jean-François Serres, qui se retrouvent pour dialoguer autour d'un projet porté par le fils Mona Lisa,
oui,
qui est la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Et le sous-titre de ce livre est « Dialogue sur l'engagement ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-François Serres, le fils de Michel Serres, est le directeur, le président des Petites Fères des Pauvres en France. C'est absolument extraordinaire de voir le prolongement. Et ce livre, qui se lit aisément, facilement, aux éditions du Pommier, nous donne une autre dimension de Michel, une autre caractéristique de son humanité.
Tout à fait. Oui, c'est vrai, il m'avait parlé de son fils la dernière fois que je l'ai rencontré. C'est une autre facette, effectivement. Et il y en a encore une autre, c'est que j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois, une fois à Nice et une fois à Antibes. Eh bien, sur une scène de théâtre, parce qu'il a participé à des spectacles où il était le récitant de textes extraordinaires, une fois dans le cloître des franciscains à Nice, à Cimier, dans les spectacles d'été, et la toute dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le théâtre d'Antea à Antibes, où là aussi il donnait la réplique dans ce spectacle, et c'était vraiment une autre dimension il se mettait en scène.
Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Ève pour cette émission qui va se clôturer par un fond de musique qui nous vient du Japon et qui je crois est très caractéristique de ce que Michel est comme enfant. Je rappellerai seulement au fur et à mesure où cette musique va augmenter, il dit ceci Michel, « Tout mon travail depuis 50 ans, c'est d'aider à la naissance du monde moderne. Je suis un accoucheur du nouveau monde, une sage-femme de ce monde. Socrate disait qu'il accouchait les individus. Là, pour moi, c'est l'accouchement du nouveau monde. » Une fois de plus, chers auditeurs, l'émission est trop courte. Nous avions de quoi passer avec vous encore au moins une heure. Alors, nous aurions pu explorer davantage la pensée de Michel Serres sur le contrat naturel, sur le bonheur, sur la musique, sur l'essence, etc. Alors au moins, j'ajoute ceci. Merci à François pour son intervention intense. À Agnès, chargée de cours de philosophie à l'Université de Nice, pour sa pertinence, sa lucidité, sa culture et sa rigueur. À Ève, philosophe qui a connu comme étudiante à Nice Michel Serres et qui en garde à jamais un viatique pour la vie. Merci aux éditions Dialogue à Bresse qui nous ont permis d'accéder à la voix de Michel Serres lisant lui-même son livre « Biogé ». Merci à Anna, qui avec moi a beaucoup travaillé en amont de cette émission et qui, comme webmaster du CID, va gérer la révision de l'émission et la mise en ligne. N'oubliez pas le site www.art+culture+education.com/. Ce site qui, pour la fin juin, va être restauré. Avec l'émission sur ce site, vous trouverez une note de synthèse qui vous proposera une documentation. Avant d'écouter à nouveau cette musique venue du Japon, Je vous proposerai aussi d'écouter Anna nous lire des extraits du tir instruit. Quant à moi, avant de vous quitter, je retiens deux citations de Michel Serres. La première, « Un chercheur est celui qui risque sa vérité et qui se casse la gueule ». Je reformulerai, « Un chercheur est celui qui risque sa vérité, découvre et admet son ou ses erreurs et poursuit son chemin en recherche ». La seconde, « L'intelligence, c'est l'imprévisible ». Je reformulerai, « L'intelligence, c'est lorsque je fais face à l'imprévisible et à l'inattendu pour un penser l'agir approprié ». Et Michel, nous vous souhaitons de rester longtemps parmi nous. Je reprends un passage de vous dans Petite Poussette qu'Anna a lu tout à l'heure dans l'émission. Vous faites partie, Michel, des grandes voix qui esquissent une voie pour le XXIe siècle. Passeur, mais aussi, selon votre propre expression, Michel, sage-femme, accoucheur du Nouveau Monde. Si l'on retient 7 à 9 voix françaises, nous avons reçu dans Parole d'écriture Marcel Conche, Edgar Morin, Boris Cyrulnik et, ce jour, Michel Serres. L'an prochain, nous ferons une émission sur Gaston Bachelard et une autre sur Henri Laborie. L'an prochain, nous ferons une émission sur Gaston Bachelard, une autre sur Henri Laborie. Et nous envisageons ensuite 2 émissions, l'une sur René Girard et l'autre sur Paul Ricoeur. Quelle est belle cette citation! Vous en connaissez l'origine, bien sûr. Les étoiles brillent pour que chacun puisse trouver la sienne. Merci de votre écoute. Je vous laisse avec Anna, et puis ensuite avec cette musique si belle qui nous vient du Japon. Bonsoir, chers auditeurs.
Rien ne donne plus de sens que de changer de sens. Apprendre lance l'errance. Un certain désordre favorise la synthèse. Tout apprentissage exige ce voyage avec l'autre et vers l'altérité. Pendant ce voyage, bien des choses changent. Aime l'autre qui engendre en toi l'esprit. Je ne crois pas connaître, en revanche, de meilleure définition de l'homme que le vieil adage « Errare humanum est », à qui je fais dire « Est humain celui qui se trompe ». Il a au moins essayé. Le but de l'instruction est la fin de l'instruction, c'est-à-dire l'invention. L'invention est le seul acte intellectuel vrai, la seule action d'intelligence. Le reste, copie, tricherie, reproduction, paresse, convention, bataille, sommeil, seul éveille la découverte. L'invention seule prouve qu'on pense la même chose qu'on pense, quelle que soit la chose. Je pense, donc j'invente. J'invente, donc je pense. Seule preuve qu'un savant travaille ou qu'un écrivain écrit. Les institutions de culture, d'enseignement ou de recherche, celles qui vivent de messages, d'images répétées ou d'imprimés copiés, les grands mammouths de l'université, des médias ou de l'édition, les idéocraties aussi, s'entourent d'une masse d'artifices solides qui interdisent l'invention ou la brise, la redoutent comme le pire péril. Les inventeurs leur font peur, comme les saints mettaient en danger leurs églises, dont les cardinaux, parce qu'ils les gênaient, les chassaient. Plus les institutions évoluent vers le gigantesque, mieux se forment les contre-conditions de l'exercice de la pensée. Voulez-vous créer ? Vous voilà en danger. Vous reconnaîtrez l'œuvre et l'ouvrier authentique à ce signe qui ne manque pas. Tous deux ensemble rajeunissent. Ils mourront enfants, à force de courir vers l'origine du monde. Créer veut dire aller vers les mains de l'ouvrier divin à l'aube des choses. Inverser le temps. La création résiste à la mort en réinventant la vie. Cela se nomme résurrection. L'humanité devient humaine quand elle invente la faiblesse, laquelle est fortement positive. Aussi judicieuse que se présente une idée, elle devient atroce si elle règne sans partage. À quoi bon vivre si nul jamais n'enchante le monde ?